La mission prophétique de Don Helder Camara, 1909-1999, voici la seconde et dernière partie de l'intervention de José de Brooker, journaliste et membre de l'association Don Helder Mémoire et Actualité, intervention enregistrée le 12 décembre 2009 à l'abbaye de Belloc. La mission prophétique de Don Helder Camara, voici la seconde partie de l'intervention de José de Brooker.
Alors, quand on dit prophète de quoi ? S'agissant de Don Helder, on lui attribue là aussi beaucoup de qualificatifs. Je les ramène à deux. Le plus connu, celui qui fait la réputation de Don Helder, presque le seul connu, c'est prophète pour un monde plus juste, plus humain, plus respirable. C'est sa trilogie. Plus juste, plus humain, plus... Quelquefois, il ajoutait, c'est dire la même chose, plus fraternel. Prophète de la mondialisation et d'une mondialisation à visage humain, ça ne me paraît pas avoir perdu de son actualité. Ces inlassables, disons, dénonciations des injustices qui sont la violence numéro un. La révolte contre l'injustice étant la violence numéro deux. Et la répression de la révolte, la violence numéro trois. Mais la violence numéro un, ce sont les injustices. Et les injustices structurelles. C'est-à-dire qui sont considérées comme étant dans l'ordre des choses. Ces dénonciations répétées, inlassablement, des violences résultant des injustices et appelant à la lutte contre les injustices par la violence, la non-violence active. Non pas le pacifisme, mais le non pas le passivisme, mais le pacifisme, ne pas confondre les deux. Convaincre et non pas vaincre. La bonté a plus de force pour désarmer tout adversaire que la violence. Bon, donc Don Helder comme figure emblématique d'engagement pour des réformes de structure dans l'ordre du commerce international, dans l'ordre de la gouvernance mondiale, la réforme du droit de veto à l'ONU, contre toute forme de violence, ça... C'est l'image que l'on garde et elle est juste. Mais j'ajoute, parce que ça c'est beaucoup moins connu, c'était moins public, mais cela a sous-tendu toute sa vie, prophète d'une église autrement, et je précise, d'une église autrement, pas d'une autre église, d'une église autrement, non pas pour qu'elle soit plus confortable, non pas pour qu'elle attire plus de monde que les sectes, les évangéliques ou le bouddhisme, ou je ne sais pas quoi, sur le marché des religions, qu'elle soit plus appétissante. Non. Une église autrement pour aider le monde à être autrement. C'est-à-dire que les forces de libération de l'évangile, les forces libératrices de l'évangile, soient transmises, communiquées, par l'Église, par la communauté des chrétiens, au monde, pour qu'ils s'en servent. Ça veut dire, c'est ce qu'il entendait, l'Église, la formule n'est pas de lui, mais il la faisait sienne, l'Église servante. L'Église servante est, ce qu'il voulait dire, servante est pauvre. Pauvre pour pouvoir être servante. Et pauvre. Bon, ce n'est pas seulement les musées du Vatican, c'est aussi pauvre d'arrogance, modeste dans ses certitudes, ne se prétendant pas être la porte pour le salut. Jésus a dit, je cite de mémoire Don Helder, « Je suis la porte ». Bon, alors que l'Église s'identifie à Jésus, qu'elle soit transparente, etc., une église autrement pour un monde autrement. Ça, c'était très important. Le prophète dont Elder me paraît être, j'ai trouvé récemment cette citation, alors je vous la donne, l'illustration d'une définition que Bergson donnait des mystiques. Je vais revenir un peu sur le Don Elder mystique. Les véritables mystiques s'ouvrent simplement à une vague qui les envahit, sûrs d'eux-mêmes parce qu'ils sentent dans leur propre intériorité une force plus grande que les leurs propres. Ils apparaissent comme de grands hommes d'action. Et cela est très surprenant pour ceux qui pensent que la contemplation est seulement vision, extase. Ils sentent l'urgence de propager au dehors l'impulsion d'amour qu'ils ont reçue et la capacité de moduler, et de modifier la vie humaine. Pour moi, Dweller est là-dedans, dans la catégorie des mystiques. Il y a eu lundi dernier, à Paris, une conférence prononcée par un prêtre français, professeur de théologie, qui avait été appelé à développer son travail dont je veux parler, à la faveur de 3 conférences dans une université catholique au Brésil au mois de septembre. Qu'est-ce qui lui était demandé? De faire 3 conférences sur mystique et prophétie. Et, dans la tradition historique des mystiques, dans la vie et l'œuvre de Don Elder Camara, parce que c'était pour le centenaire de Don Elder Camara, et selon le Concile. Et il a synthétisé son propos dans une seule conférence à Paris la semaine dernière sur mystique et prophétie chez Don Elder Camara. Et ce prêtre, qui fait partie de l'Institut Notre-Dame de Vie, qui est de racines carmélitaines, donc les mystiques qui connaissent un peu, ce prêtre n'a jamais connu Don Elder. Et je suis témoin, parce que disons que je lui ai fourni pas mal d'éléments, mais je n'ai pas fait ce travail, j'ai donné la matière écrite, des écrits de Don Elder, quelques écrits sur Don Elder. Et c'est à partir de cela qu'il a fait une démonstration que j'ai trouvée particulièrement éloquente sur la dimension mystique de Don Elder. Non seulement sa dimension mystique aurait été une dimension ajoutée à d'autres, mais sur, disons, le creuset mystique dans lequel Don Elder forgeait, fondait, faisait l'alchimie de son unité toute simple. Je m'explique un peu autrement. On a l'image de Don Elder comme d'un homme simple, facile à identifier. Le prophète des 100 voix, le prophète de la justice, le prophète de la paix, toujours disponible, toujours souriant, aimable, non violent, etc. Enfin, bref, un homme tout simple. Enfant, je l'ai dit aussi. Il était ça, c'est vrai. Mais il n'était pas que ça. Il était ça plus le contraire de tout ça. J'ai dit, il était à la fois violent et pacifique. Il était extrêmement complexe. Il était multiple. Il avait tous les défauts de ses qualités. Sa première conversion, dont il a fait la confession, si je peux dire, dans le premier livre, d'ailleurs, l'enquête biographique que j'avais publiée en 68 chez Fayard, c'était à l'âge de 18 ans, sa première conversion. Je les résume d'un mot. J'espère que je ne suis pas trop long. Parce que vous me dites, hein, père. Il avait 18 ans, il était au séminaire. Il était fougueux, je l'ai dit, polémique, polémiste. Et il voulait contribuer à bâtir une chrétienté. Bon, que n'a jamais connu le Brésil, vraiment. Bon, et il a été scandalisé par des articles que publiait une professeure à l'école normale de Fortaleza, la ville où il était au séminaire, à l'état du Ceará, une femme, professeure à l'école normale, et qui défendait des thèses positivistes et matérialistes que pas encore père Elder jugeait scandaleuses. Donc, il avait pris la plume, il avait pris un pseudonyme, et il a commencé à polémiquer dans le journal catholique du diocèse, Nord-Est, contre... Et alors, elle a répondu, il a répondu, et la polémique s'enflait, dont Elder était de plus en plus fier, et de plus en plus combatif. Il avait l'appui de ses collègues au séminaire, même du recteur du séminaire, était un bon flamand lazariste, le croisé dont Elder en tenue de croisé. Bon, polémique. Jusqu'au jour où le vicaire général du diocèse le fait appeler et dit, si j'ai bien compris, si je crois savoir, derrière ce pseudonyme, c'est toi, hein, Elder. Ah oui, oui, c'est moi. Enfin, il pensait être félicité par le vicaire général. Je t'en fiche. Excusez-moi. Non, seulement je ne suis pas félicité, mais dit, tu as écrit ce matin ton dernier article. Oh, mais c'est pas possible, vous vous rendez compte? Mais est-ce qu'elle a encore écrit ce matin? Bon, non. Alors, c'est ton dernier article. Celui de demain, je l'ai déjà écrit, je vous le montre. C'est ton dernier article, il est passé, n'en parlons plus. Bon, la discussion était finie. Et voilà donc Elder sortant de là en tempête, révolte, etc. Là, il raconte tout ça, je le raconte mal, je pourrais vous le lire, mais c'est encore plus long. Parce que le démon fait monter à la surface de son esprit le fait que ce vicaire général est l'oncle de la femme professeure de l'école normale qui écrit ses écrits scandaleux. Alors le démon lui rend compte, même ce vicaire général, monseigneur Attel, qui est un homme tout à fait sain, parfait, même lui, il se laisse avoir par les liens de parenté, etc. Bon, et il ne va pas jusqu'au bout du combat pour la vérité, parce qu'il y a des transactions familiales, etc., des convenances. Bon. Ah, même. Alors, Don Elbert, heureusement, en sortant de ce vicaire général, il passe devant une chapelle, il entre dans la chapelle, il est accueilli là par la Vierge, comme ici quand on rentre dans l'église, bien, à peu près, j'imagine, Et il prend une résolution, je ne sortirai pas d'ici sans avoir retrouvé mon calme. Alors il priait la Vierge, il a toujours une grande dévotion pour la Vierge, et il y a mis 2h30. Pendant ce temps-là, il entendait à l'extérieur ses collègues, « Allez, sors de là, il faut continuer, il faut te battre, etc. » Non, et lui, et finalement, il s'est souvenu que c'était le 22 juillet, la Sainte-Marthe. Je ne sais pas si c'est toujours le 20, mais à l'époque, à cette époque-là, c'était le 22 juillet, la Sainte-Marthe. Bon. Et il s'est souvenu de l'évangile du jour. Il y en a une des deux, entre Marthe et Marie, qui choisit la meilleure part, etc. Bon, enfin bref, ça l'a apaisé. Il a dit, bon, mais il faut que je choisisse aussi la meilleure part. Et ce jour-là, il a eu conscience d'avoir domestiqué, mis sous contrôle, non pas jeté à la porte, le principal défaut de sa principale qualité, le principal défaut qui est l'orgueil. Il a compris que cette bataille par presse interposée, cette croisade, eh ben, il en tirait un orgueil formidable. Hein, qui était bien dans sa nature d'ailleurs, si vous lisez ses écrits pendant le concile, etc., vous verrez que l'orgueil, la vanité, ça occupait une certaine place dans sa connaissance de lui-même. Il a vaincu l'orgueil. Et de ce jour-là, il a mis ses démons sous contrôle. Je crois qu'il avait aussi un souvenir d'un autre évangile qui dit si on chasse son démon familier, il revient avec cet autre ou je ne sais pas combien d'autres. Donc il dit, vaut mieux que je les garde sous contrôle. Et puis je les surveille, je veille, je fais attention. Et c'est constamment après qu'on le voit. Et surtout à la faveur d'humiliation, et Dieu sait s'il en a connu dans sa vie. Revenir à cette date du 22 juillet de la Sainte-Marthe de son séminaire, pour dire, bon, je reconnais que je suis atteint dans mon orgueil, atteint dans ma vanité, atteint dans mes ambitions, mes prétentions, mes certitudes. Hein ? Bon, ça, c'est ma part démon. C'est pas cette part que je choisis. Et hop, il se retrouve en paix. Sa sérénité de tous les jours, il l'a reconstituée chaque nuit. Alors là, je rejoins la mystique et l'explication de ces nuits blanches. Depuis son ordination, jusqu'à, je pourrais pas dire jusqu'à sa mort, parce qu'il a quand même les toutes dernières années été physiquement très handicapé, mais jusqu'à très très tard dans sa vie, peut-être jusqu'à 85 ans, 86 ans, j'en sais rien. Il a pratiqué ce qu'il appelait sa veille avec un V majuscule. Alors, formellement, bon, son contrat avec lui-même, c'est de mettre son réveil à 2h du matin, et quand il n'avait pas de réveil, quand c'est arrivé au concile, j'ai oublié mon réveil, heureusement, lui en a apporté un autre, etc. Que serais-je sans mon réveil ? Bon, son réveil à 2h du matin, et de 2h à 4h du matin, ou 5h, non, 4h du matin, dans son contrat, hein, bon, il veille, il reprend un peu du sommeil à 4h du matin, pour se réveiller pour sa première messe à 6h. La veille et la messe étant étroitement articulées. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, je dis tout de suite que les 2 heures en question, c'était le contrat. Mais ceci dit, il n'était pas toujours couché à 2h du matin. Son activité des soirs, bon, c'est clair qu'il rentrait 8 et 1h du matin, alors il dormait peut-être 1h. Et ensuite, le nombre de fois où il prolongeait sa veille jusqu'à l'heure du réveil, si je peux dire, pour la messe, ou le réveil de la maison, c'est incalculable. Il y avait toujours des raisons de la prolonger. Alors sa veille, c'était quoi ? C'était, pour lui, c'était refaire l'unité. Et l'unité en Christ. C'est-à-dire renouveler, réassurer que le Christ demeure bien en moi et que je demeure bien dans le Christ. Toute la journée, un bras est parti par ici, un autre par là, une jambe par ci, une jambe par là, etc. Bon, on est écartelé, dispersé, bon, et en soi-même, alors c'est là où les qualités et les défauts se battent en duel, hein, bon, savoir qui l'emportera sur l'autre. Refaire l'unité. Alors, ça consistait en quoi ? Ben, il lisait l'office divin, il préparait la messe du lendemain, il la commentait par écrit, c'est là où on le voit discuter avec Dieu, avec le Christ, avec les anges, avec l'Église quand il s'interroge sur le bien fondé de mettre dans le missel des psaumes auxquels les gens ne peuvent rien. Ou bien il faut entendre quand il essaye de s'expliquer avec le Christ sur la fête du Christ-Roi, hein, c'est quelque chose. Il a du mal à comprendre le Christ-Roi tout en comprenant bien que le Christ a dit « c'est toi qui le dis ». Bon, je suis... Enfin bref, il y avait ça. C'est là où il étudiait, et pour étudier, ça veut dire qu'il lisait, et quand lui, il lisait, ça voulait dire qu'il discutait, conversait avec l'auteur du livre. Les livres sont tous annotés. Les marges blanches, les pages blanches, hein, ben, il y va de son commentaire, pour approuver, pour discuter, pour évoquer autre chose. C'est là où il conversait, tranquillement, avec Dieu, le visible, l'invisible, et que trouver une expression, ses visions, si je peux dire, son regard sur la création, les créatures, les hommes du passé, etc. Et ce sont ces méditations. Bon, si je vous dis qu'on en a conservé au moins 7700 petits textes dits de méditation, ben, c'est la nuit qu'il les, ça lui venait sous la plume, mais il les écrivait. C'est là qu'il préparait aussi son courrier, ses conférences à venir, ses entretiens du lendemain, récapitulation de la veille, préparation du lendemain. Et c'est, disons, son, l'espace, c'est pour ça que je parlais d'un creuset, si vous voulez, où la nuit, de 22 ans et demi, son ordination, disons jusqu'à 85 ans, tous ces temps de récupération dans le Christ. Vous savez que ça, une de ses prières préférées, qu'il vivait, outre toutes celles de François d'Assise, bon, c'est celle de Newman, que le marche, non, regarde par mes yeux, écoute par mes oreilles, parle par ma bouche, alors, dont elle l'a rajouté toujours, et marche par mes pieds, etc. Enfin, bref, et c'est cette unité, et c'est comme ça qu'on le retrouve. Il fait des projets sans arrêt, il prend des décisions sans arrêt, sans jamais croire ou penser que c'est parce qu'il les a pensées ou qu'il les a mises en œuvre que ça doit avoir lieu, que ça doit être bien. Si ça échoue, si Dieu le veut, ce n'est pas moi qui suis l'acteur, je ne suis que l'instrument de l'acteur. Il avait développé dans ses années 36, 40 et quelques, ce que j'appelle sa période d'intense maturation culturelle et spirituelle. Il avait développé avec un groupe, ses collaborateurs, ses familiers, les gens avec lesquels il n'avait pas de ministère particulier, mais enfin qui se retrouvaient autour de lui, en fraternité, si je peux dire. Il avait développé ce qu'il appelait une spiritualité de l'apostolat occulte. Bon, c'est-à-dire où l'apôtre n'est que l'instrument, et que le vrai apôtre, c'est le Christ. Donc, si on n'est pas le bon instrument, le Christ, si ça ne réussit pas, c'est que le Christ est trompé d'instrument. Voilà, c'est tout. C'est pas, bon. Ça n'empêchait pas d'oser, d'entreprendre. Donc, cette dimension, mystique de Don Helder est vraiment fondamentale. Alors, je terminerai en disant que ce qui autorise à l'approcher jusqu'à se creuser, c'est la publication de ce qu'il écrivait lors de ses veillées, de ses écrits. Alors ça prend la forme, notamment, une partie importante de ce corpus, jusqu'à présent inédit. Comment cette édité ? C'est ce qu'il appelait ses circulaires. Ses circulaires, c'était des lettres qu'il adressait nuit après nuit à ce qu'il appelait sa famille, on pourrait dire sa paroisse, ou son diocèse, fictif, enfin bon. Sa famille, c'était les groupes de laïcs, qui avaient commencé de s'agréger autour de lui dans cette période, les premières périodes à Rio, où il était mis en réserve du ministère, un peu à l'ombre. Il a travaillé, le cardinal Lemay, il a dit, tu gagnes ta croûte, passe les concours pour être fonctionnaire du département de l'éducation, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le secteur éducation et pédagogie, etc., dont elle est. Bon, donc il était prêtre fonctionnaire, mais il avait des bouts d'aumônerie ici ou là, etc. Moyennant quoi, il commençait à avoir des échanges culturels et spirituels interactif avec des personnes qu'il rencontrait dans ses aumôneries, etc. Ensuite, quand il a été chargé de mission, les mêmes plus d'autres sont venus s'agréger à ce petit noyau. Ce sont ceux qui ont, avec Don Helder, ou bien c'est Don Helder avec eux, ont créé réellement l'action catholique au Brésil, qui est devenue une force motrice considérable. Ensuite, se sont agrégés ceux qui ont, et quand Don Helder a été chargé de, pour l'année sainte de 1950, d'organiser le pèlerinage national à Rome, eh bien, il a, d'autres collaborateurs sont venus s'ajouter à la famille, les mêmes plus d'autres. Ensuite, quand il a créé la conférence des évêques du Brésil, une nouvelle vague de collaborateurs, collaboratrices, etc. Et puis, je pourrais continuer comme ça. Et à Recife, quand il a quitté à Recife, la famille de Rio est restée fidèle, mais à Rio, et s'y est ajouté un complément de famille, des valeurs ajoutées, si je peux dire, de Recife, ses collaborateurs, collaboratrices, pour la Banque de la Providence, pour l'opération Espérance, pour, enfin, je pourrais vous citer quantité d'initiatives qui ont été portées collégialement, en équipe, par Helder Camara et ses laïcs, masculins ou féminins. Donc, il tenait beaucoup, dont Helder, à continuer à s'élever ensemble, interactivement, avec sa famille. Donc, il est tenu au courant de ce qu'il faisait, de ce qu'il rêvait, de ce qu'il priait, de ce qu'il lisait, des rencontres qu'il faisait, de son agenda. Et il en attendait des échos. Et ça, il a commencé cela avec la première session du Concile. Donc, ses premières circulaires sont datées de Rome. Et là, c'était d'autant plus important parce qu'il savait bien que c'était ses troupes arrière qui étaient restées au Récif qui auraient la charge de mettre en œuvre le Concile. Donc, ils le vivent en même temps que lui. Donc, dès le début 62, les acteurs ecclésiaux de la famille de Don Helder savaient comment marchait le Concile, où il allait, etc. Quelles étaient les ouvertures en perspective, les débats, etc. Ils ont vécu cela, et en même temps, Don Helder les sollicitait pour alimenter ses possibles interventions, non pas dans l'Assemblée conciliaire, il n'y a jamais parlé, mais dans les contacts qu'il multipliait avec le cardinal avec Etchegaray, un nouveau compatriote. Ensemble, ils ont fait la paire, et ensemble, ils ont fait, Etchegaray et Helder, la majorité conciliaire. S'il n'y avait pas eu eux deux, la majorité, cet esprit était plus grand qu'eux quand même. Humainement parlant, c'est eux qui ont été les articulateurs de la majorité, de ce qui est devenu la majorité conciliaire, à travers toutes sortes d'instances. Donc, dans ces lettres, je vous le signale, on en a conservé 2122. C'est quand même un paquet. Ça fait, je ne sais plus, j'ai le nombre de feuillets quelque part, ça ne vous intéresse pas, mais c'est de sa petite écriture fine, 6400 pages manuscrites. Sur ces 2122, qui n'avaient aucune vocation à être publiés. Donc c'est du Don Helder à l'état cru. Dans toute sa spontanéité, sa sincérité, et chaque lettre, il y a 5-6 facettes différentes de Don Helder. Il y a le poète et il y a le gestionnaire, il y a le rêveur. Et il y a le comploteur, il y a le conscientiseur, le réformateur, il y a le journaliste, il y a le portraitiste, il y a le dialoguiste, parce que tout est là. Et c'est à la fois une chronique et à la fois le journal d'une âme et un agenda. Au jour le jour, écrit le nuit la nuit. Donc on rencontre Don Helder dans ses circulaires mieux qu'en 40 ans de contact comme ça. C'est clair. C'est pour ça que je pense qu'à la différence d'autres prophètes du XXe siècle, contemporains de Don Helder, qui ont laissé de fortes empreintes, Don Helder, lui, a été assez vite oublié, mais il s'est laissé survivre intensément dans ses écrits. Et que j'en ai fait l'expérience, on peut le rencontrer mieux là que je n'ai pu le rencontrer en 40 ans, en diverses reprises. C'est pour ça que je souhaite que ça se sache, je pense, si vous voulez, que... Alors je retrouve un peu l'intérêt de ne pas laisser tomber les prophètes. Quand je continue de vivre un peu avec Don Helder, en le lisant, en le traduisant comme je peux, parce que je ne suis pas lusophone, qu'est-ce que je perçois ? Que j'essaye de partager son regard sur le monde. Don Helder avait une acuité de vision. D'ailleurs, c'est le père Congar qui a écrit à propos de Don Helder au Concile. Il ne le prenait pas très au sérieux, le père Congar, parce que beaucoup de gens ne prenaient pas Don Helder très au sérieux, parce qu'il avait ce côté d'homme de scène en même temps, si vous voulez. Mais il a cette chose si rare à Rome, la vision, et la vision du monde. Il savait lire les signes des temps et respirer l'air du temps. Donc, il voyait bien. Et quand il percevait qu'il y avait des réalités, parce que le mot réalité, pour lui, c'était ça, les signes du temps, les réalités, étaient intolérables, il faisait tout ce qu'il pouvait pour qu'elles ne soient pas tolérées. Ce qui est tout à fait différent de simplement dénoncer de l'intolérable, mais que les autres s'en débrouillent, ou de s'arranger avec. De toute manière, on n'y peut rien. Lui avait toujours, toujours pensé qu'il y a moyen de faire quelque chose, et qu'on ne peut pas s'abstenir. Il a inventé un mot, que j'adopte aussi, mais ça ne dit rien, le pilatisme. C'est-à-dire, comme pense Pilate, on voit ce qu'il serait juste de dire, ce qu'il serait juste de faire, mais on a tellement de bonnes raisons de ne pas les dire, de ne pas les faire, et bien qu'on pêche par abstention. C'est Don Helder qui m'a fait comprendre ce qu'on peut entendre par péché d'abstention. Et Dieu sait si on en commet. Alors, la vision des choses. Pour Don Helder, la misère, ce n'était pas des statistiques. Dans les statistiques, il voyait des hommes, des femmes, des enfants. Et il les connaissait. Il est capable de parler des pauvres parce qu'il les connaissait. C'était des êtres humains. La violence, c'est pas non plus un thème à discours. Je dirais, à propos des pauvres, bon, c'est pas seulement une matière à option. L'option fut-elle privilégiée ou prioritaire ? Non, c'est autre chose qu'une matière à option, la lutte contre la misère ou la pauvreté. Alors, il y a l'état du monde qui doit pouvoir être plus fraternel, plus respirable, plus juste, plus humain. Je crois que la vision de Don Helder peut être drôlement encore utile aujourd'hui. Je retiens aussi la conjugaison étroite qu'il faisait entre le voir et l'agir. Si on voit, on fait. Après avoir compris. Il avait été beau le promoteur de l'action catholique au Brésil. Il avait fait sienne mécaniquement la formule du cardinal Kardec, voir, juger, agir, qui a toujours d'actualité, mais lui ne vivait pas ça comme ça. Il a toujours dit on n'a pas le droit de juger. Mais pour lui, c'était voir, comprendre et agir. C'était une question de vocabulaire. De Don Helder, je regarde aussi l'empreinte d'une vision de la mission de l'Église dans le monde et des manières meilleures qu'elle pourrait avoir de vivre ce rôle de l'Église au service du monde. Côté réformateur de Don Helder, l'Église a changé dans l'après-concile, mais le monde a encore plus changé. Combien faudra-t-il attendre un autre concile pour remettre l'Église à l'heure. Voilà, faut-il un concile? Il suffirait que les communautés chrétiennes passent de la vision à l'agir, aussi sur ce plan-là. Une troisième raison, qui personnellement me fait espérer qu'on ne laisse pas tomber la prophétie de Don Helder, c'est je crois que notre temps a aussi beaucoup besoin, autant que la deuxième moitié du XXe siècle, de prophètes. de prophète, parce que la confusion des esprits par rapport au présent ou à l'avenir, entre la peur ou l'indifférence, les individualismes, etc., bon, ben, depuis la disparition ou l'effacement des idéologies qui servaient en quelque sorte de catalyseur de volonté d'action, de perspective possible, eh bien, c'est le désarroi. Il n'y a plus de phare. On est dans un temps, disons, où l'avenir est sans visibilité claire. Et c'est là où les phares sont utiles. Et pour moi, Don Helder fait partie de ces phares. Et je ne dirais pas du tout qu'il est le seul. Hein. Bon, donc c'est un petit peu tout cela qui, toute cette année, a animé le mouvement déclenché pour qu'on n'oublie pas Don Helder. Alors le problème, c'est de le faire passer à de plus jeunes générations, faire passer une mémoire que cette génération n'a pas, évidemment, faire passer le message, faire passer la vision, faire passer... Bon. Et pour moi, ça, l'effort peut avoir pour moyen, justement, la diffusion des écrits de ou sur Don Helder. Hein. Bon, parce que ça, c'est plus accessible et que c'est assez éloquent. Alors, j'évoquais ces lettres conciliaires, mais ça ne fait que sur les 2122, ça ne fait que 490. Il y en a une autre série de la même période, mais écrite de récif, qui sont déjà éditées au Brésil, pas encore en France, parce qu'il faut les traduire, et bien, bon, c'est encore un travail à faire, et ça ne fera encore au total que 600. Un circulaire. Et après ça, il y a toutes les autres circulaires de ces engagements non violents internationaux, etc., etc., de ces autres programmes et actions. Mais c'est quand même du travail pour chercheurs, ça. Je ne peux pas conseiller que ce soit de je peux le conseiller, mais enfin, il faut avoir deux volumes, 1100 pages. C'est un peu lourd. Mais d'autre part, mais il y a des livres quand même plus accessibles, y compris qui résument, c'est un peu, qui proposent une lecture en raccourci de ces lettres conciliaires. Il y a les 1000 raisons pour vivre, qui sont ces petites pensées, méditations poétiques. Ça, c'est pas loin, ça va pas chercher loin, mais bon, ça inspire, ça fait respirer, etc. Il y a ces entretiens sur des phrases, des pages de l'Évangile, l'Évangile avec Don Helder Camara, qui traduisent, à mon avis, assez bien, même bien, de manière très simple aussi, sa vision chrétienne de l'actualité, si je peux dire, dans ses grands traits. Hein. Tout cela, plus les conversions d'un évêque, pardon, là aussi, vous avez par lui-même, alors dans le récit de sa vie, hein, beaucoup d'éclairage sur les ressorts. Enfin, bref, il y a, je pense, déjà dans ce qui est accessible en français, et dans ce petit dépliant, si vous le prenez, vous avez une liste des ouvrages actuellement disponibles en français, il y a déjà des chemins pour accéder à ce que j'appelais le creuset, ou à cette source de lumière, bien utile pour une vision, et ces sources d'énergie, bien utiles pour ne pas se décourager, ni devant l'état du monde, qui n'est pas désespéré si... on veut entrer dans l'esprit de Don Helder et dans les raisons de Don Helder, ni dans l'état de l'Église, dont il n'y a pas lieu, encore moins, de désespérer, aussi si on comprend bien le souffle qui inspirait l'énorme confiance de Don Helder, qui avait pour caractéristique, et je termine là-dessus, pour dire sa complexité et en même temps son unité, qu'il était en quelque sorte trois personnes en un homme ou trois hommes en une personne. tellement il faisait corps avec le Christ, intimement, absolument corps avec l'Église et absolument corps avec l'humanité. Donc c'est trois composantes de ses personnalités qui l'ont mise en tension toute sa vie parce qu'elles ne s'accordent pas tellement bien. Il a été en tension toute sa vie et tension qu'il arrivait à surmonter, à dominer, à maîtriser à la faveur de ses veilles.
La mission prophétique de Don Helder Camara 1909-1999, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de l'intervention de José de Brooker, journaliste et membre de l'association Don Helder, Mémoire et Actualité, une intervention enregistrée à l'abbaye de Belloc le 12 décembre 2009.